Chers amis, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu vient nous rappeler que l'homme a une grande liberté de parole parce qu'il a confiance en Dieu et qu'il doit la garder. Deuxièmement, nous sommes les dépositaires de la foi, comme l'écrit saint Paul à Timothée. Et nous sommes tout, sauf des peureux. L'Esprit nous a donné un esprit de force et de confiance. Et troisièmement, nous pouvons retenir de ces lectures, c'est un encouragement pour la mission, pendant cette période de congrès mission, justement, que impossible n'est pas chrétien. Oui, liberté de parole de l'homme et confiance en Dieu. Eh bien, c'est le livre d'Habacuc qui vient nous rappeler cela. Habacuc n'est pas très connu de nos jours, on ne le lit pas souvent, mais à l'époque du Nouveau Testament, il l'était. Et d'ailleurs, l'Évangile s'inspire du livre d'Habacuc. Nous, lorsque nous disons, par exemple, « Le juge vivra par sa fidélité », nous retrouvons cela dans l'Épître aux Romains. Oui, c'est une palette de sentiments qui nous est présentée dans ce livre d'Habacuc, de la complainte à la violence, de l'appel au secours, à l'exultation pure. Ces cris de détresse font penser un petit peu au livre de Job que nous lisions récemment. Oui, c'est un cri. Les premiers versets du extrait qui nous est proposé aujourd'hui, c'est un cri. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas ? Un cri de détresse devant le déchaînement de la violence. Et ce cri, il est toujours d'actualité, parce que la violence est toujours d'actualité. Comme dans le livre de Job, comme dans beaucoup de psaumes, la Bible, eh bien oui, la Bible, elle ose dire des phrases que l'on pourrait trouver impertinentes, où l'homme se permet de demander des comptes à Dieu. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours ? Oui, la violence dont parle Habacuc, eh bien, c'est celle de l'ennemi du moment, c'est-à-dire Babylone. Il les appelle les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est-à-dire, traduisés aujourd'hui, les armées de Nabucodonosor. Nous sommes 600 ans avant Jésus-Christ. L'ennemi numéro un était, avant les Chaldéens, c'était les Assyriens qui habitaient Ninive, mais qui ont été écrasés à leur tour par Babylone, qui est désormais la puissance montante au Moyen-Orient. Mais depuis que le monde existe, eh bien sûr, nous découvrons partout les mêmes horreurs de la guerre, comme aujourd'hui, nous les découvrons en Europe orientale et dans tant de pays, au Mali, au Burkina Faso. Pourquoi m'obliges-tu, Seigneur, à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère ? Devant moi, pillage et violence, disputes et discorde se déchaînent. Nous pourrions reprendre à notre compte. Beaucoup de chrétiens dans de nombreux pays pourraient reprendre cette complainte à leur compte, oui. Mais Habacuc ne perd pas la foi pour autant. Et c'est là la leçon qu'il nous donne, dans cette grande liberté de parole que le croyant a avec Dieu. « Je guetterai », dit-il. C'est vraiment la mission de guetteur, de veilleur qu'il assume. « Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore », chantons-nous avec le psaume 130. « Il guettera et il attendra », dit-il, « attendre tout de Dieu. Je guetterai, que dira le Seigneur ?» Et la première chose, donc, c'est la confiance. Et la deuxième chose, c'est la conscience que son interpellation est un peu osée. L'interpellation d'Habacuc. Oui, le prophète a demandé des comptes à Dieu et il s'attend à être grondé, mais il ne le sera pas. Je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu. Eh bien, mais le Seigneur Dieu ne lui fait aucun reproche. Il l'invite seulement à la patience, il l'invite à la confiance et il en est de même pour nous aujourd'hui. Oui, nous sommes invités à cela. Dieu nous donne une grande liberté de parole. Et même si Habacuc ne décrit pas, il parle d'une vision, il ne nous dit pas de quoi il s'agit, mais bien sûr, il le dira dans le chapitre suivant, il s'agit de la libération de ceux qui sont actuellement opprimés. Finalement, la leçon à retirer, c'est que la méfiance à l'égard de Dieu ne peut que nous faire du mal. Et c'est probablement le sens de la formule de ce texte que nous avons lu, qui termine le texte d'aujourd'hui, le juste vivra par sa fidélité. Alors, Seigneur, à nous de garder cette fidélité. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. L'insolent, en l'occurrence, c'est Babylone, qui est fière, qui est très orgueilleuse à cause de ses conquêtes. Et la fidélité, eh bien, c'est celle du croyant, c'est celle d'Abraham, qui a accepté toutes les mises à l'épreuve, jusqu'à oser sacrifier son fils. Abraham eut foi dans le Seigneur, et cela lui fut compté comme justice. Voilà l'exemple qu'il nous est donné. Donc, liberté de parole, grande liberté de parole, y compris dans la plainte, dans la contestation, mais en même temps découverte que seule la confiance en Dieu peut nous sauver. Et puis, une autre remarque que nous pouvons faire avec ces lectures, c'est que quand Habacuc parle de Babylone, il dit les Chaldéens, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'Irak d'aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'Abraham, lui-même, était Chaldéen. Or, Abraham est qualifié de juste, justement, par la confiance qu'il a manifestée envers Dieu. Donc, la justice, ce n'est pas une affaire d'origine, ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une question de circoncision ou de non-circoncision, ce n'est pas une question de religion, mais c'est une attitude du cœur. Alors, soyons conscients de cela dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Quant au psaume aujourd'hui, eh bien oui, c'est un psaume qui aussi est dans la même veine, qui nous invite à reconnaître Dieu comme notre créateur, comme le Dieu qui nous libère également. C'est un psaume d'action de grâce, mais c'est un psaume qui vient nous rappeler que quand viennent les épreuves, viennent les doutes. C'est dans l'épreuve, justement, que nous vérifions notre foi, que nous vérifions notre capacité à faire confiance en Dieu. C'est pour ça que nous pouvons lire « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ?» Oui, écouter dans la Bible, c'est-à-dire faire confiance. Seule la confiance en Dieu nous fera vivre. Le psaume reprend un petit peu ce thème que nous avons lu avec le livre d'Habacuc, nous disant que seul le juste vivra par sa fidélité. Alors, nous sommes invités à cela, à la fidélité. Mais nous le voyons avec l'histoire des Hébreux, lorsqu'ils quittent leur esclavage, lorsqu'ils ont faim dans le désert, lorsqu'ils ont soif, eh bien, ils en viennent à regretter leur esclavage. Et la sortie d'Égypte, ils se découvrent que c'était peut-être pas aussi terrible que ça en Égypte. Ils oublient les mauvais souvenirs. Et ils en veulent à Moïse de les avoir sortis de là. Le peuple murmure, c'est-à-dire qu'il commence vraiment à se plaindre. Alors Dieu intervient et l'eau jaillit du rocher. Nous retrouverons d'ailleurs l'expression « Dieu mon rocher » dans le psaume. Oui, ce psaume nous rappelle le choix de la confiance que nous avons toujours à faire. Aujourd'hui, écoutons la parole du Seigneur. Et alors, écoutons-la d'autant plus que nous sommes les dépositaires de la foi et que nous sommes tout sauf des peureux, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Quand Paul écrit sa lettre à Timothée, il est en prison à Rome et il finira par être exécuté, enchaîné comme un malfaiteur. Il sait très bien qu'il n'en a plus pour longtemps. Et cette deuxième lettre à Timothée est donc une sorte de testament pour Paul. Réveille en toi le don de Dieu. Voilà ce qu'il dit à Timothée. Il fait allusion bien sûr à l'Esprit Saint que Timothée a reçu. Et il lui dit, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. Oui, les mots, la confirmation, l'ordination, tout cela n'existait pas à l'époque. Mais on sait très bien que les débuts de l'Église se faisaient par l'imposition des mains, qui signifiait le don de l'Esprit Saint confié à ses ministres qui servaient l'Église. Réveille en toi le don de Dieu. C'est une phrase qui peut nous surprendre. Ça veut donc dire que le don de Dieu, parfois, qui est en nous, il est capable de dormir, il est capable de s'endormir. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est une formule plutôt encourageante. Si nous sommes capables de réveiller en nous le don de Dieu, c'est que le feu de l'Esprit est en nous, même si nous avons l'air de l'avoir plus ou moins laissé s'endormir. Ce n'est pas un esprit de peur, précise Paul, mais justement un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de maîtrise de soi. Oui, Avec la force de Dieu, Paul le dit, prend ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Cette souffrance, bien sûr, c'est la persécution inévitable qui attend les prédicateurs de l'Évangile. Mais Paul dit à Timothée, avec la force de Dieu. Ce n'est pas notre force qui compte, c'est la force de Dieu. Alors nous qui sommes aussi baptisés, prêtres, religieux, diacres, engagés en Église, nous sommes les dépositaires de l'Évangile. Je ne sais pas si nous sommes conscients de notre privilège. Eh bien, il nous appartient, non pas d'être des peureux, mais d'être suffisamment forts pour annoncer cette bonne nouvelle et nous faire pour que le monde change, que le monde se convertisse. Et l'Évangile vient nous rassurer. L'Évangile vient nous dire que impossible n'est pas chrétien. On a l'habitude de dire impossible n'est pas français. Mais non, aujourd'hui on peut dire impossible n'est pas chrétien. Dans cet Évangile, il y a deux parties. Dans la première, Jésus répond finalement qu'il ne s'agit pas de chercher à évaluer notre foi. Ce n'est pas ça le problème. Il s'agit de compter sur la puissance de Dieu, puisqu'un petit grain de moutarde peut devenir le plus grand des arbres. C'est la puissance de Dieu. Pas besoin d'avoir beaucoup de foi. Rien qu'une graine de moutarde minuscule suffirait pour faire des choses extraordinaires. Eh bien, quand nous agissons au nom de l'Évangile, n'oublions pas que rien n'est impossible à Dieu. Et puis, la deuxième partie, l'expression « serviteur quelconque », oui. Qui de nous se sentirait les reins assez solides pour porter la responsabilité d'annoncer seul le royaume de Dieu et d'en être le garant? Les phrases de Jésus sont dures, mais elles sont encourageantes. Nous ne sommes pas des subalternes, la responsabilité ne repose pas sur nous. Nous ne sommes que des subalternes, justement. Quel soulagement! C'est le Seigneur qui construit la maison. C'est lui le bâtisseur. Nous ne sommes que des maçons à ses ordres. Et si Dieu nous prend comme serviteurs, c'est aussi qu'il a besoin de nous. Et ça, c'est un encouragement. Il a besoin que nous soyons au service de la mission, que nous soyons ses collaborateurs. Il veut nous associer à son œuvre. Et cela peut, et cela doit, nous remplir de fierté en toute humilité. Nous avons tous l'occasion de rencontrer des chrétiens qui veulent servir l'Église lorsque nous leur demandons de bien vouloir faire le catéchisme ou de bien vouloir participer à une équipe de préparation au mariage ou au baptême. Nous le savons bien. La première réponse est de dire « mais je ne suis pas capable ». Eh bien, heureusement que nous avons cette réponse. Ce serait drôlement inquiétant si des chrétiens nous disaient « mais je suis parfaitement capable ». Non, c'est une garantie, cette sagesse que l'on a sur soi, de dire qu'on a toujours besoin d'apprendre et que nous sommes de simples serviteurs. Éviter une fois de plus de sortir... il faut sortir de la perspective des mérites, des récompenses. Mais surtout, cela doit nous garder sereins dans l'exercice de notre mission. Oui, impossible n'est pas chrétien. Et nous sommes des serviteurs modestes, mais indispensables, qui font confiance à Dieu.